RCF.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
Il y a la grande histoire et les petites histoires. Il y a aussi parfois un croisement entre les deux. Je m'appelle Pierre Le Riche, je suis journaliste à RCF en Normandie et je vais tenter au mieux de vous raconter le parcours de deux prêtres, deux hommes engagés très tôt dans la résistance, dont la vie et la mort se rejoignent sur un point, le courage face à l'horreur. Ils sont au moins 138 prêtres religieuses et religieux à avoir été tués pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Calvados. Certains ont été honorés, d'autres sont restés dans l'ombre. C'est le cas de l'abbé Jacques Leclerc. Il aurait pu finir par être oublié. Né en 1913, ordonné prêtre à Bayeux en 1941, fusillé par la Gestapo à Pont-l'Évêque en 1944. Ce n'est qu'en 2019 qu'un homme va retrouver sa trace. Alain Pignel tombe sur un calice lui appartenant au Maroc. Débute alors une enquête à travers le temps.
Épisode 2, la victoire de la vie.
Alain Pignel fait des recherches. Passe des coups de téléphone, rencontre des gens. Il finit par relier le calice de Jacques Leclerc à deux femmes, Madeleine Béranger et Marie-Clotilde Decombien, deux proches collaboratrices de la Gestapo.
Je m'aperçois que ces deux femmes ont été condamnées par la Cour de justice de Caen en 1945. Elles ont eu un procès, elles ont été condamnées à mort. Donc, qui dit procès dit archives, qui dit archives départementales du Calvados. Je me précipite aux archives départementales du Calvados. Et là, je découvre que ces deux femmes abominables sont non seulement ont passé toute la guerre confortablement installées avec ces messieurs de la Gestapo, mais qu'elles ont donc activement participé à la répression des résistants, et qu'au moment de la débâcle, c'est-à-dire fin août 44, puisque vous le savez, la bataille de Normandie a duré beaucoup plus longtemps que prévu, ces deux femmes se sont enfuies dans le cortège de la Gestapo qui a remonté dans une traînée sanglante la Normandie pour passer ensuite en Belgique, pour aller en Allemagne. Et comme il fallait bien qu'elles travaillent, eh bien, elles se sont faites embaucher, elles ont été engagées et immatriculées comme agents de la Gestapo, où elles ont continué leur travail, parfaitement francophone, évidemment, parfaitement germanophone. Elles ont écumé les réseaux de résistance en Allemagne, qui existaient aussi, elles ont dénoncé à tour de bras, bref, elles ont continué leur travail.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est.
Trois jours avant la capitulation, le 5 mai 1945, l'armée du Troisième Reich est à son crépuscule. Madeleine Béranger et Marie-Clotilde Decombien se font alors passer pour des déportés du STO, le service du travail obligatoire.
Elles ont réussi à s'embarquer sur un bateau de rapatriés pour passer en Algérie, puis au Maroc. Et dans les archives du Calvados, où on trouve beaucoup de choses, on trouve leur PV d'interrogatoire de la DST française, enfin l'ancêtre de la DST française, puisque le Maroc était protectorat. Elles arrivent à la frontière, on leur dit « mais enfin, qui êtes-vous, allez-vous » Alors elles racontent qu'elles sont de grandes résistantes, gaullistes, persécutées par les affreux résistants communistes, et donc elles vont rejoindre leur famille au Maroc. Et l'une d'entre elles, la fameuse bijoutière de Pont-l'Évêque, Madeleine Béranger, précise même qu'elle va rejoindre son cousin germain, Monsieur Mercier, qui tient un hôtel à Marrakech. Et là, je comprends pourquoi le calice a échoué à Marrakech. Parce que dans le dossier de ces deux femmes, on précise bien qu'elles raflaient tout ce qu'elles pouvaient lorsque la Gestapo de leurs amants arrêtait les résistants. Et elles raflaient bijoux, objets, numéraires, tout ce qu'elles pouvaient. Donc le calice et leur butin passent par Marrakech. Elles continuent sur Casablanca pour se fondre dans la foule. Elles vont être rattrapées par leur passé au mois de septembre 45, extradées en France, jugées, condamnées à mort, puis graciées par le général de Gaulle qui gracie systématiquement les femmes. Puis elles auront des remises de peine et elles vont ressortir de leur prison dans les années 50.
Et alors, l'abbé Leclerc dans tout ça? Alain Pignel découvre qu'il a été un jeune prêtre, ordonné à 28 ans.
Ordonné à toute allure, il est ordonné sous-diacre en juin 41, diacre moins d'un mois après, en juillet 41, et prêtre en octobre, le 12 octobre 41. Une semaine après, il est envoyé comme vicaire à Dives-sur-Mer.
Dives-sur-Mer est à l'époque une petite ville. On y trouve une grosse usine de métallurgie, activité industrielle qui est nourrie grâce à une importante communauté polonaise, mais aussi italienne et nord-africaine.
Vous imaginez bien qu'en 1941, les Allemands mettent la main sur cette usine et la surveillent de près. D'autant plus que toute la zone est une zone interdite, puisque comme une grande partie de la Normandie, puisqu'ils sont même en train d'installer du côté de Saint-Pierre-du-Jonquet des rampes de lancement pour les V1. Donc l'abbé Leclerc, lui, est envoyé comme vicaire. Il va avoir un ministère très fécond auprès des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Il s'en occupe. On va trouver des lettres de lui à la mairie réclamant au ministère du ravitaillement des pommes de terre et des denrées pour nourrir 250 enfants dont le patronage s'occupe et à qui sert un repas tous les jours. C'est un peu les restos du cœur avant l'heure. Hein. C'est une période où on souffre beaucoup, y compris en Normandie. Contrairement à ce que l'on pense, la Normandie, même si c'est une terre d'agriculteurs et d'élevage, eh bien, tout est réquisitionné par les Allemands qui sont extrêmement nombreux sur la côte normande et pour cause. Donc, on trouvera des traces, même dans les archives, de gens qui sont condamnés à être déportés parce qu'ils ont volé un cajot de pommes qui était destiné aux soldats. Donc vous voyez, c'est dire si les denrées sont précieuses.
Jacques Leclerc se trouve là-bas. Attaché à sa mission sacerdotale, il s'y emploie, mais pas seulement. L'abbé est aussi un résistant. Il observe les bateaux avec ses jumelles, note sur son calepin leurs mouvements, et envoie le tout à Londres pour le renseignement. Jacques Leclerc est aussi l'aumônier du centre de jeunesse, un lieu dirigé par Jacques Bimont, chef d'un réseau de résistance. Ensemble, accompagnés par d'autres habitants de Dives, ils vont venir en aide à des parachutistes alliés qui s'étaient égarés au moment du débarquement. Nous sommes alors en juin 1944. Cela fait 3 ans que Jacques Leclerc est engagé contre l'occupant, mais c'est cette activité, après le 6 juin, qui va conduire à son arrestation et à celle des autres membres du réseau.
Donc, l'abbé Leclerc est arrêté, torturé, à coups de nerf de bœuf. Il est interné quelques jours à la prison de Pont-l'Évêque, une prison atroce qui existe encore, non, qui a été fermée depuis, bien sûr, mais qu'on peut encore voir à Pont-l'Évêque. C'est une petite prison construite à la fin du XIXe siècle. et qui, pendant l'occupation, a été l'antichambre de la mort. De nombreuses personnes y ont été internées, communistes, juifs, résistants, gaullistes, tout ce que vous voulez. Et de cette prison, qui était un petit Drancy, on partait soit pour des camps, soit pour la ville de Caen, et ensuite pour des camps de concentration, dont certains, évidemment, dont beaucoup ne sont pas revenus, soit on partait à Argens, où la Gestapo de Caen s'était délocalisée, torturer les gens et les exécuter. C'est ainsi que tout le groupe de Jacques Leclerc est passé par Argens et a fini dans un trou de bombe à Saint-Pierre-du-Jonquet, où on les a retrouvés en 1946. Je suis un peu ému en vous racontant tout ça, parce que c'est une histoire tragique dans laquelle se croisent des destins à la fois glorieux et épouvantables, puisque c'est à la fois l'héroïsme et la lâcheté et la collaboration la plus poussée qui se rencontrent à un moment donné. L'abbé Leclerc va finir dans ce charnier de Saint-Pierre-du-Jonquet. Je vais découvrir plus tard, par mes recherches, qu'il a été ce petit abbé dont pas grand monde ne voulait, parce que finalement, on imagine bien que s'il n'a pas été ordonné tout de suite, et s'il a laissé un peu sur le côté, c'est qu'il était d'une santé très fragile, et que à l'époque, un petit abbé malade, malingre, etc., ça allait peut-être coûter un peu de sous, alors on l'a fait attendre. Au niveau de l'armée, il a été réformé. Un petit soldat chancelant, c'est pas un bon soldat. Ce petit abbé, dont personne ne voulait, est devenu, en 1948, a été élevé au grade de sous-lieutenant à titre posthume pour fait de résistance, et est devenu un témoin de la foi que personne ne peut contester. Par son action, par son exemple, par la vie qu'il a donnée pour les autres. Donc, grâce à la découverte de ce calice, et grâce à l'émotion qui a suscité cette découverte, on a pu initier pas mal d'actions. Quand je dis on, c'est surtout l'association La Dive, un fleuve pour la liberté, qui s'est lancée dans une campagne de restauration de la tombe de l'abbé qui était à l'abandon, qui a donc fait poser une plaque, et grâce à des fonds recueillis et à des dons, qui a fait poser une plaque en marbre et qui a restauré la tombe sur laquelle on a fait graver le calice et on a fait ajouter la mention sous-lieutenant à titre posthume pour rendre justice à l'abbé Leclerc. Pour la commémoration du 75e la 75e anniversaire, j'aime pas ce mot parce qu'un anniversaire c'est gay, là c'était quand même pas très gay, de la découverte des corps des résistants, l'évêque de Bayeux-Lisieux, Mgr Habert, a dit une messe extrêmement émouvante en 2021, donc, dans l'église de Dives, avec le calice qui est revenu à la lumière et qui resserre qui a retrouvé son usage cultuel. C'est peut-être ça la vraie victoire de l'abbé Leclerc. C'est que ce calice qui a été volé, profané par les nazis et leurs amis français gestapistes, ce calice a retrouvé la lumière et finalement c'est la vie qui a eu le dernier mot, la vie éternelle.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
Ladies and gentlemen, we may be approaching a fateful hour. All night long, bulletins have been pouring in from Berlin, claiming that D-Day is here.
And of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all.
Du sanglot long des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.